Qu'est-ce qui vous a mené ici, chasseur de trésors?
Bonsoir et bienvenue dans Cadenas Directionnels et Lampes UV, c'est parti pour une heure, notre rendez-vous de l'été 19h30, 20h30 pour vous parler des jeux d'évasion au Québec et même parfois ailleurs au Québec quand les idées nous inspirent. Mon nom est Jessica Leb, je suis moi-même passionnée de jeux d'évasion et j'en ai fait partout avec mon partenaire. On n'est pas encore allé à Rouyn-Noranda, mais je trouvais que ça faisait bien qu'on retrouve des jeux d'évasion autant de Rouyn-Noranda au Saguenay, en passant par Asbestos, Montréal, Québec, bien sûr, Longueuil, Trois-Rivières. Je pourrais vous citer beaucoup de villes parce que cette industrie est grandissante et je vous rappelle qu'en 60 minutes, vous avez toujours de grandes missions à accomplir dans ce divertissement qu'on peut aller faire en famille, entre amis ou encore entre collègues. À chaque numéro de Cadenas Directionnels et Lampes UV, on développe un thème autour des jeux d'évasion. On avait déjà parlé des décors dans cette émission, c'était déjà l'émission numéro 3, mais on a décidé d'y revenir parce qu'on avait parlé de l'importance du décor pour nous faire croire qu'on va aller cambrioler une banque ou s'évader de prison ou encore échapper à des zombies, mais on n'a pas encore beaucoup parlé de la conception des décors de jeux d'évasion, et encore une fois dans cette émission, on a des invités pour en parler. Avant cela, je présente mon fameux partenaire Marc Raymond. Bonjour Marc. Eh bien Marc, on va parler des décors, on va revenir un peu dans l'épisode numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous disait sur les décors d'ailleurs?
Oui, c'est ça. Donc, voilà deux semaines, on s'est posé la question, est-ce que le décor est un élément important pour apprécier un jeu d'évasion? Puis ben, sans grande surprise, on a statué que oui.
Ça alors, c'est un gros sondage scientifique.
Oh, on a fait un sondage même sur Facebook. La grande majorité des répondants ont affirmé que le décor était au moins aussi important que les énigmes. Il y a même quelqu'un qui me dit, ben, si je voudrais juste faire des énigmes, ben, j'achèterais un livre puis je les ferais tout seul dans ma cuisine. T'sais.
Même si le livre est bien fait, il pourrait être tout à fait immersif.
Voilà.
C'est pas ce qu'il vient chercher dans les jeux d'évasion.
Mais donc, c'est ça. L'importance du décor va au-delà de se mettre plein de wow dans les yeux. Puis, il n'est pas beau juste pour être beau. T'sais. Il y a beaucoup plus à ça, au décor. Ben, déjà, il contribue à l'immersion, ça nous aide à nous faire croire au jeu, nous faire croire à la situation. Ensuite, c'est vraiment bon pour le moral des joueurs. Déjà, dès que le joueur rentre dans la salle, s'il est stimulé par le décor, il va être beaucoup plus réceptif. Il va être beaucoup plus réceptif, pardon, puis il va avoir le goût de, il va plus avoir le goût de jouer. Il va partir sur une note positive. Et bien, c'est aussi le même principe pour l'accueil avant même le jeu. C'est ça, un peu, on s'égare du sujet de décor, mais
ça si, pourrait commencer
c'est
avant
ça,
le jeu lui-même.
Si le participant arrive content dans la salle, bien, là, le décor, le beau décor ou le décor vraiment trash, tu sais, qui le fait capoter.
Ça, ça te plaît toujours,
moi,
par
ça
exemple.
Me plaît. Mais donc, c'est ça, tu pars avec des a priori positifs. Mm-hmm. Puis, ben enfin, ça ne sert pas juste de toile de fond, le décor, ça va vraiment faire partie du jeu lui-même, parce que les entreprises vont intégrer dans leur salle divers mécanismes, des patentes électroniques, tu sais, qui vont permettre au décor de devenir des énigmes aussi. Donc, c'est pour ça, entre autres, que le décor est important. Je ne sais pas si nos invités vont avoir d'autres raisons à ajouter là-dessus. On va leur en parler, puis on va parler de la conception et de construction avec eux.
De construction, oui, parce que pour faire ces décors, soit on vient d'un domaine où on sait déjà construire des décors, soit au contraire, on vient d'un autre domaine. Alors comment on l'apprivoise, ce décor, pour nous faire croire qu'on est devant une pyramide égyptienne ou encore dans un bar clandestin? On va en parler avec nos invités aujourd'hui. Alors autour de la table, on est très content de le recevoir parce qu'il vient tout droit de Saint-Jean-sur-Richelieu pour nous parler de ses décors. Stephen Keller, copropriétaire de Sauve qui peut, qui avait ouvert en premier à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui a ouvert une deuxième succursale à Québec l'été dernier. Bonjour Stephen.
Bonjour Jess.
Accompagné aujourd'hui d'invités qu'on a déjà reçus, puisque eux, ils sont basés à Québec depuis 2016, l'entreprise à double tour dans Saint-Roch, voisin quasiment de Sauve qui peut, avec Alexandre Paquette, copropriétaire d'à double tour. Ami aussi, bon, on va le préciser. Bonjour Alexandre.
Bonjour, bonjour.
Et avec toi, très contente de recevoir et de connaître surtout celui qui est derrière les décors d'à double tour, Jeff Labbé, qui est concepteur des décors de l'entreprise à double tour depuis les débuts en 2015-2016. Bonjour.
Bonjour.
Jeff, j'ai envie de commencer avec toi, parce que toi, tu viens du théâtre au départ. Alors, je lis dans ta biographie que tu es d'ailleurs diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Québec en scénographie en 2002. Tu as travaillé notamment sur les éclairages de Made in Beautiful, présenté à la saison 2019-2020, ou encore Sauvageau, qu'on a pu voir dans la région. Et tu enseignes aujourd'hui la scénographie et l'éclairage au Cégep de Montmagny, notamment. Jeff, quand on t'est arrivé avec le projet de concevoir des décors pour des jeux d'évasion, est-ce que tu savais ce que c'était vraiment, pour commencer?
Pour être franc, non, absolument pas. Moi, en fait, j'ai rencontré Myriam parce que c'est une de mes anciennes étudiantes.
Qui est copropriétaire de
Double Tour. Qui est copropriétaire, qui est la conjointe d'Alexandre. Donc, c'est elle qui m'a approché parce qu'on se connaissait. Elle disait, écoute, on veut partir dans un jeu d'évasion. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, elle disait, est-ce que je peux te rencontrer? J'aurais des questions. Puis moi, je me suis présenté chez eux là, une fin d'après-midi, tout simplement. Puis j'avais aucune idée là, de qu'est-ce qu'il s'agissait. Puis là, ils m'ont amené voir les locaux qui étaient vides. Puis là, ils m'ont dit, je trouvais ça grand. Je dis, dans quoi qu'on s'embarque?
Gros terrain de jeu.
Ouais, non, je comprenais pas encore l'ampleur de la chose, puis exactement c'était quoi un jeu d'évasion, je n'avais jamais fait moi-même. Bon, la chose que je savais, c'est que bon, c'est des salles à thème, on avait besoin de décors. Bon, ça me stressait pas beaucoup parce que bon, j'ai quand même l'habitude de concevoir des choses dans n'importe quel contexte, hein, le théâtre, le cinéma, le cirque, l'opéra. Bon, c'est un scénographe peut travailler partout. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est assis, puis on a commencé à concevoir la première mission qui était...
Grande évasion.
Ouais, voilà.
La prison.
La prison.
La prison de Saint-Roch, qu'on pourrait penser qu'elle existe vraiment quand on va chez à double tour.
Exactement.
Donc, une prison. Est-ce qu'une prison, ça représentait déjà un défi pour toi à concevoir dans ce contexte-là de jeu d'évasion?
Non, c'était pas quelque chose qui m'énervait. Moi, en fait, ce qui m'emmerdait, c'était plutôt peut-être de faire une prison dans un contemporaine qui était peut-être un petit peu moins intéressante au niveau visuel. Donc, c'est là, en discutant, je disais, hey, ça serait intéressant d'amener peut-être au début du siècle. Ça faisait pas longtemps, j'avais écouté à la télévision La Ligne verte, je crois, avec Tom Hanks. Et puis, je me disais, ah, ça serait le fun de l'amener au début du siècle. Ça serait un petit peu plus... Il y aurait de l'ambiance, on pourrait faire des textures, on pourrait faire des choses qui seraient plus permises aujourd'hui au niveau de la salubrité. Fait que ça m'intéressait.
Ouais. C'était plus intéressant qu'une prison propre contemporaine. Exactement. Du 21e siècle. Mais j'imagine que tu as dû te confronter à certains défis que tu n'avais pas en théâtre, parce que, par exemple, je dis le théâtre, mais ça peut être le cinéma ou autre, parce que les décors s'apprécient peut-être de loin pour les spectateurs. Là, il y a le rapport des joueurs avec le décor qui vont manipuler le décor qui peut faire partie des énigmes du jeu.
Bien évidemment, là, les clients, hein, ça c'est une chose, c'est pas nécessairement moi, mes meilleurs amis, c'est ce qui n'est pas le cas de mes deux partenaires ici. Bon, les clients, il y en a de toutes sortes. Bon, je pensais que des comédiens, ça brisait des éléments de décor, mais j'avais encore rien vu. Là, c'est sûr qu'on a la permanence des installations. Ça, évidemment, ça a été un défi auquel, au départ, on a dû s'ajuster. Avec les années, on a changé nos techniques. On a appris beaucoup avec le temps. À force de refaire des choses, à un moment donné, bon, là, ça suffit, on va les faire de cette façon-là, comme ça, ça va durer pour le temps. Mais effectivement, il faut songer aux clients et au fait que certains, des fois, vont être un petit peu intenses dans leur niveau de jeu. Là.
Mais ils vont tellement y croire qu'ils vont forcer comme s'ils allaient forcer pour s'évader d'une prison, par exemple.
Ouais, voilà, mais c'est des décors. Hein, donc, exact. C'est ça.
Bien que ça fait partie des consignes, d'ailleurs, qu'on nous donne avant d'entrer dans la salle, la force physique n'est pas nécessaire, puis on nous ramène souvent aussi à la force physique d'un enfant de 5 ans, par exemple, de ne pas forcer plus que lui pour indiquer qu'il faut respecter les décors, notamment. Donc, depuis les débuts, depuis 2015, vous avez commencé à concevoir la prison avant qu'elle ouvre officiellement en 2016. Comme tu le disais, Jeff, ça a évolué. Qu'est-ce qui te allume encore aujourd'hui à concevoir des décors pour À Double Tour?
Ah, bien écoute, chaque fois c'est un nouveau défi, chaque fois c'est une nouvelle ambiance. On va dans des directions qu'au théâtre, en tout cas, c'est des niveaux, c'est des thèmes qu'on n'aborde pas vraiment au théâtre. Là, faire un vaisseau spatial avec des aliens qui sont en train de se reproduire sur les murs ou je sais pas trop, là, des œufs, des trucs comme ça, on fait pas ça au théâtre parce que, bon, ben, je dis pas que ça se peut pas, mais...
C'est peut-être plus rare.
Ouais, ça serait peut-être un petit peu plus rare, puis on est plus dans les purs, hein. Souvent au théâtre, c'est minimaliste, de toute façon, les budgets descendent tout le temps, donc faut trouver des solutions des fois qui sont plus esthétiques, plus épurées, qui laissent place aux comédiens, qui laissent place à la lumière, à des trucs comme ça, donc ça, c'est peut-être un peu plus... excusez-moi. J'étais déconcentré par l'extérieur. C'est peut-être un petit peu plus intéressant au niveau des jeux d'évasion, parce qu'on peut vraiment aller dans des thèmes, là, puis aller profond. Là, t'sais, le côté gore aussi, parfois, de certaines missions, ça me plaisait beaucoup. Là. Je m'inspire beaucoup des jeux vidéo. Ça, c'est un peu ça, un jeu d'évasion, en fait. C'est un jeu vidéo live. Donc,
en réel. Ouais.
Ouais, c'est en réel. Donc, je vais un peu plus loin là, que ce que je pourrais me permettre de faire au théâtre. Puis aussi, ben, au théâtre, c'est souvent sur trois murs. Il n'y a pas de plafond, il y a des coulisses. Là, c'est 360 degrés, c'est au plafond autant qu'au plancher, ça me plaît. Ouais.
Jusqu'au moindre détail. Alexandre Paquette, toi, copropriétaire d'A Double Tour, qui a dû travailler sur les toutes premières énigmes de l'entreprise. Maintenant, vous avez une équipe de conception d'énigmes. Quand on pense décor au moment de concevoir le scénario, est-ce qu'on pense aux limites du scénographe ou on se dit non, il n'aura pas de limite? Quoique Myriam, qui est copropriétaire, est elle aussi dans le domaine, donc elle doit s'en rendre compte aussi.
En fait, je me permets beaucoup avec Jeff d'aller au-delà de ce que je pourrais comme imaginer dans le fond. Fait que je pars d'un scénario tout simplement, puis là on se met à rêver si on veut, on rêve à 360 degrés, puis c'est là que je vais rencontrer Jeff, puis je crois sincèrement que c'est un des meilleurs scénographes de la ville de Québec. Puis lui, tu sais, des fois il va me proposer des solutions tu sais, pour la conception de décor que moi-même j'avais pas imaginé. Fait que je me laisse pas limiter par justement les contraintes techniques si on veut, ou de, je trouve que ça limite l'imagination et genre l'idée qui peut en sortir dans le fond.
Est-ce qu'il y a un décor où tu as vraiment été, j'imagine à chaque fois, agréablement surpris, mais quand même tu t'es dit ça va au-delà de mon imagination justement?
Moi puis Myriam, on a toujours été agréablement surpris par la proposition de Jeff. On imagine tout le temps, c'est ça, on a une idée en tête de ce que ça pourrait ressembler. On regarde des films, on regarde des jeux vidéo, on sort des images, puis on les présente souvent à Jeff. Mais une fois que le décor est terminé, ça prend une toute autre ampleur. On est tout le temps agréablement surpris de la qualité puis du rendu de ça. C'est au-delà de nos espérances souvent. Et j'en remercie Jeff pour son beau travail.
C'est pas fini, de ce que je comprends. Vous continuez de collaborer.
Ben non, évidemment, c'est pas terminé.
Je vais prendre un exemple au Pays des Merveilles, hein, qui nous ramène dans l'univers, alors soit de Lewis Carroll pour Alice au Pays des Merveilles, ou encore Tim Burton avec l'adaptation. Vous aviez mille et une possibilités avec un scénario comme celui-là, et pourtant, quelle que soit la référence qu'on a pour Alice au Pays des Merveilles, on retrouve ce à quoi on pourrait s'attendre dans cette salle. Jeff, t'as dû jouer avec beaucoup de choses. On peut pas dévoiler parce qu'évidemment ça fait partie de la surprise de la salle. Mais quand tu conçois, c'est un dialogue permanent entre ceux qui imaginent le scénario, les énigmes, et toi, le décor, tes possibilités.
Mais évidemment, Alice, là, ça commence à faire un moment.
Oui.
je me souviens quand même là. de la façon qu'on s'y était pris, mais on s'y prend sensiblement toujours un peu de la même façon. Alex me parle de ce qui le stimule, il me mène des images, on avait pensé à ça, on veut que ça se passe dans cet environnement-là. Puis là, après ça, moi, je pars de mon côté, je fais des recherches, je trouve des images. Puis là, après ça, tranquillement, ben, j'arrive avec des propositions. Mais évidemment, c'est sûr, qu'est-ce qui lead tout ça? Ben, il y a les énigmes. Qu'est-ce qui se passe dans les pièces, t'sais? Qu'est-ce qu'il va falloir installer? Dans Alice, on avait prévu à l'époque une quatrième pièce, puis c'était la troisième, là, c'était les trois premières qui ont été faites. Donc là, à la fin, là, on arrivait, puis c'était un petit peu limite au niveau du temps, puis qu'on avait coupé une pièce, donc il avait fallu trouver une manière d'étirer pour que ça dure une heure quand même. Puis c'est dans le labyrinthe que ça s'est passé.
Oh, faut pas tout dire.
Je veux juste, pour vous donner une idée de la dernière pièce qu'on avait imaginée initialement, on voulait carrément que la sortie du labyrinthe se passe dans une glissoire. Mm-hmm. Donc, on voulait une glissoire puis atterrir dans dans le fond d'une piscine de balles. Mais là, on y allait vraiment.
Ouais,
exactement. C'est le genre de divagation qui a été coupé court.
J'interviens souvent, en fait.
Ben, j'imagine, on n'en a pas parlé encore, mais il y a la sécurité aussi. Puis peut-être que ça aurait été problématique pour des issues de secours ou choses comme ça, parce qu'on ne peut pas remonter une glissade.
Exactement. Puis aussi, le lavage des balles devenait un petit peu problématique au niveau des employés.
C'est un des arguments aussi.
Exactement.
Alors, on a investigué sur la carrière de Jeff Labbé, parce que, comme on le disait, avant de faire des décors de jeux d'évasion, c'est avant tout un scénographe, notamment pour le théâtre et le cinéma. Et on a vu qu'il a travaillé sur Sweeney Todd, notamment.
Ah oui, Cauchemar.
Cauchemar.
Cauchemar. D'ailleurs, écoute, j'ai toujours pas été payé. Alors, ouais, si,
on se demandait si c'était cette même production. Donc, tu nous confirmes que oui, ça nous a juste aiguillé pour le choix musical, ouais, parce qu'on va écouter un extrait de Sweeney Todd, pas cette production-là.
Je suis pas sûr que c'est un bon souvenir.
Le film. On va lui couper ses écouteurs pendant ce temps-là. Voici Sweeney Todd avec The Worst Pies in London.
Half a minute, can't you sit? Sit you down, sit. All I meant is that I haven't seen a customer for weeks. Did you come in for a pie, sir? Don't forgive me if me head's a little vague.
What was that?
But you think we had the plague? From the way that people keep avoiding.
No, you don't.
Heaven knows I try, sir. But there's no one comes in even to inhale. Right you are, sir, would you like a drop of ale? Mind you, I can hardly blame them. These are probably the worst pies in London. I know nobody cares to take them. I should know, I make them, but good night, the worst boys in London. Even as polite, the worst boys in London. If you dare to take a bite. Is that just disgusting? You have to concede it. It's nothing but frosting. You drink this, you need it. The worst boys in London. And I wonder with the price of mint what it is when you get it. Never thought I'd live to see the day. Many think it was a trick for them poor animals what are dying in the street. Mrs. Mooney has a pie shop, does her business, but I noticed something weird. Lately all her neighbours' cats have disappeared. Have to hand it to her, what a course, enterprise, popping pussies into pies. Wouldn't do in my shop. Just the thought of it's enough to make you sick. And I'm telling you, them pussycat is quick. No denying times is hard, sir. Even harder than the worst boys in London. Only Lord and nothing more. Is that just revolting or greasy and gritty? It looks like it's molting and tastes like, well, pity. Times is hard.
The Worst Pies in London, extrait du film Sweeney Todd, CKRL 89.1. Bon, on avait mis ça avec Marc parce qu'on avait adoré, on aime le film, on avait adoré le spectacle présenté à Québec il y a quelques années et sur lequel Jeff Labbé avait travaillé sur les décors qu'on avait trouvé magnifiques d'ailleurs. On comprend mieux le lien en voyant les décors d'À Double Tour. Vous êtes toujours dans Cadenas Directionnel et Lampe UV jusqu'à 20h30. Jessie Caleb avec vous. Et avec les invités également, deux entreprises de jeux d'évasion de Québec. On parle de comment concevoir un décor de jeu d'évasion, quelles sont les contraintes, quels sont les défis. Jeff Labbé, en tant que scénographe de théâtre et de cinéma, nous parlait des différences entre ces univers. On passe sur d'autres techniques de conception maintenant avec Sauf qui peut, une entreprise originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'est installée à Québec à l'été dernier. Steven Keller, le copropriétaire, est avec nous pour en parler. Bon, rebonjour Steven.
Bonjour Jess.
Steven, toi tu viens du milieu de la construction au départ ou du moins tu as des facultés pour ça? Explique-moi.
J'ai toujours été impliqué dans la construction parce que j'ai d'autres commerces. J'ai des bars à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis j'ai plusieurs blocs, puis certaines affaires. Fait que j'étais bon avec mes mains. Puis là, à peu près, je dirais, à peu près 4 ans, j'ai ouvert une compagnie de construction où ce que je m'occupais de plusieurs projets niveau construction. Puis qu'est-ce qui m'allumait le plus, c'est des niveaux de construction où ce que les compagnies de construction ne voulaient pas toucher. Des constructions un peu hors normes, comme ils ne savaient pas comment généralement le faire. Fait qu'on spécialisait un peu dans ce domaine-là, jusqu'à temps que j'ai eu l'idée d'ouvrir un jeu d'évasion qui a pris beaucoup de notre temps.
Oui, ben ça a ouvert en 2017 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que quand tu as ouvert cette entreprise de jeux d'évasion, tu t'es tout de suite dit, bah, ça va aller, je peux construire les salles moi-même avec mon équipe, mon réseau que je connais déjà?
Exactement. J'ai commencé à construire tous les jeux pas mal avec moi et une autre personne.
C'est allé très vite puisque, comme je vous le disais, Sauf qui peut a ouvert à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2017. 2 ans plus tard, donc aujourd'hui, on y retrouve 8 salles, ce qui est assez énorme.
9, pardon,
et j'ai du retard sur le compte. Donc 9 salles à Saint-Jean-sur-Richelieu et 6 salles à Québec, ce qui va extrêmement vite parce que tu as dépassé tout le monde à Québec finalement.
Non,
avec ce nombre
non,
de salles-là.
Je pense que Défi Évasion, il y en a
ah,
plus.
Ah oui, c'est vrai.
Dave, il y en a plus que moi.
Défi Évasion à Québec dans le Bourgneuf aussi. Mais c'est une rapidité incroyable. Je ne sais pas ce qu'en pensent Alexandre Paquette et Jeff Labbé pour À Double Tour. Est-ce que pour vous, venir du monde de la construction, c'est un atout incroyable pour construire des salles de jeux d'évasion?
Je pense que ça peut être un atout, mais je crois aussi que la construction de décors, ça peut être tout aussi bien. Mm. Nous, on a une méthode hybride dans le sens qu'on fait affaire avec des contracteurs pour construire l'enveloppe. Et après, avec Jeff Labbé, on vient agrémenter et embellir ces belles petites coquilles vides. Fait que je pense que c'est ça. Chez
c'est
nous,
le mélange c'est... des deux, finalement.
Ouais, je suis pas en accord avec Alex, parce que si tu essaies de dire à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience en construction comment faire une certaine porte ou un certain passage, eux autres s'en vont avec les notions de base.
Le comment.
C'est comme ouais. ça qu'on pose une peinture, puis ça a toujours été de même. Puis... puis qu'est-ce qui se passe, c'est que faut que ça soit caché, c'est faut adapter des choses, faut adapter énormément, faut prendre les notions, les connaissances, puis les adapter pour que ça soit pas visible puis bien intégré dans le décor.
On a eu des problèmes, effectivement, à Double Tour, parfois, avec certains contracteurs qui sont pas capables de pas faire les choses toujours de la même manière, justement. Ils nous posaient habituellement des plaintes dans le bas des murs, là, dans les pièces, avec des poignées standards puis des charbons autour des cartes de porte.
Exactement. Donc,
à toutes les fois, je disais, pourquoi ils ont posé ça? T'as-tu payé pour ça? On va tous les arracher. On n'a pas besoin de ça.
Mais pour vous donner un exemple concret, c'est sûr que si on est dans une pyramide égyptienne, de retrouver une poignée de porte alors qu'on est censé être à l'extérieur, ça marche pas pour l'immersion, effectivement.
Je pense qu'il faut... s'assurer d'un suivi un peu plus rapproché, dans le fond, avec les contracteurs et effectivement les architectes, parce que c'est des constructions non standards comme Alice, par exemple, leur demander de construire une petite pièce avec un plafond haut de 5 pieds, c'est vraiment différent de ce qu'ils font à l'habitude, donc il faut les guider effectivement. Mais moi, j'ai quand même des bonnes connaissances. Jeff a aussi extrêmement des bonnes connaissances, fait qu'on est capable de dans le fond, de jouer avec la même musique que les contracteurs pour les guider.
À force d'expérience aussi, quand vous collaborez plus souvent ensemble, ça doit aller plus vite.
Exactement.
Pour Sauf qui peut, nous, de notre connaissance, Steven Keller a une idée de scénario, il le monte, puis 2 mois après, la salle est faite. C'est l'exemple de week-end de rêve que je donne à Saint-Jean-sur-Richelieu, une salle conçue en seulement 2 mois.
Je crois que c'est moins que ça.
Ah bon? Excuse-moi. Combien de temps alors?
week-end m'a pris à peu près 1 mois.
Wow.
Pour concevoir. Puis ça m'a pris un peu moins pour concevoir puis construire. C'est la finition qui a été un peu plus long parce que mon artiste peintre n'y était pas disponible.
J'allais y venir quand on parlait du mélange des deux mondes, construction et art quand même, parce que tu travailles avec un artiste, on peut mentionner son nom, parce que c'est lui qui fait la signature de Sauf qui peut aussi dans les décors.
Bon, oui, il fait un grand parti de prendre qu'est-ce que je fais qui est un peu rough. Puis après ça, il rend beau, là.
Rappelle-nous son nom?
C'est Denis Ruffianche.
On le félicite d'ailleurs pour tous ses décors parce qu'il est capable de créer des effets assez incroyables pour Week-end de rêve. Est-ce que le fait, le scénario qu'on a mentionné qui a été conçu en seulement 1 mois, est-ce que le fait qu'au départ, ça se passe, c'est une fin de semaine au chalet, donc un décor assez, a priori, commun, quotidien, mais ça se transforme au cours du jeu, on n'en dira pas plus. Est-ce que ça peut aider de partir d'un décor quotidien pour aller vers quelque chose de plus imaginaire?
Mais chacune des salles que j'essaie de construire, il y a toujours un élément « wow ». Je commence toujours avec un élément que ça m'inspire. Fait que, mettons, avec mes 9 scénarios, là, je voulais absolument, chacune des scénarios, il y a quelque chose dans la salle que je suis parti avec. Puis suite à ça, j'ai construit des énigmes, puis j'ai construit le scénario alentour. Fait que, au base, il faut que ça me... faut que le décor m'inspire. Si ça m'inspire pas, j'essaie de changer d'idée.
À double tour, vous, l'effet « wow » dont parle Steven, est-ce que c'est un critère aussi pour chacune de vos salles?
Définitivement, j'appelle ça affectueusement l'effet « wow Jeff
». pour Jeff Labbé.
Non, exactement. C'est tout le temps important parce que, veux pas, les décors, c'est des créateurs d'émotions. Sans les décors, vous en parlez un peu au début, sans les décors, selon moi, le jeu d'évasion n'a pas cette ampleur-là. Donc, c'est vraiment important de surprendre les joueurs, soit par une transition bien placée, un décor qui est époustouflant ou une ambiance à tout casser. C'est vraiment d'une importance capitale. Donc, je suis d'accord avec Steven aussi, ça prend un « wow effect ». Puis c'est ça l'avantage de travailler avec des équipes multidisciplinaires, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va apporter sa touche qui va faire que l'ensemble est plus grand que nature.
Oui, Marc.
Oui, dis-moi, Jeff, avant que tu nous quittes, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as un matériau fétiche ou quelque chose comme le duct tape, là, c'est bon dans tout. Est-ce que, avec quoi t'aimes travailler pour être capable de rendre des décors beaux puis, tu sais, faire du faux qui a l'air vrai?
Je suis complètement dépassé par la question. En fait, j'ai besoin de tellement de matériaux différents. Ça dépend vraiment toujours qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mais évidemment, c'est sûr que le contreplaqué 3/4 select.
Plywood.
on peut pas s'en passer, ça c'est certain. Mais tu sais, évidemment, on utilise sensiblement les mêmes matériaux que, qu'au théâtre, là, du Loan, du MDF, des matériaux qui sont versatiles. Mais c'est souvent après ça toutes les finis qu'on va appliquer par-dessus. Comme si je me rappelle dans une des missions, il y a une grotte souterraine. Ben là, pour faire la pierre, ben là, évidemment, on ne pouvait pas utiliser du contreplaqué. Donc, il avait fallu utiliser d'autres mousses, des mousses de polyuréthane, puis des trucs comme ça. Mais c'est toujours la façon de le finir pour donner le rendu, et surtout la façon de le finir pour que ça dure. Et voilà, encore les clients.
On y revient.
On y revient. Mais il n'y a pas seulement les clients aussi, ce qu'on s'est aperçu aussi, il y avait la durée. Parce que vois-tu, il y a certains décors qui ont eu une durée de vie plus courte. Je me rappelle le premier laboratoire, la pandémie, premier laboratoire de zombies qu'on avait fait, c'était super slick, super propre, très antiseptique comme pièce. Mais évidemment, quand ça fait 3 mois qu'il y a des gens qui s'y succèdent, là, c'est un petit peu moins propre. Puis là, la job de nettoyage était telle qu'à un moment donné, ils ont perdu le contrôle. Puis c'est pour ça que c'est rare maintenant qu'on fait des choses propres, slick et nickel au niveau visuel. On s'assure toujours qu'il y ait un peu d'usure dans la patine et dans la peinture, dans les rendus, pour permettre en fait de camoufler l'usure des clients. Ce qui marche très bien avec la grande évasion.
Ou encore zone morte que vous avez complètement métamorphosé parce que c'était le laboratoire, mais c'est ça n'y ressemble plus du tout. Oui, Fébrice, puis zone morte. Jeff Labbé, moi j'ai une ultime question aussi pour toi et on finira là-dessus. Le décor dont tu es le plus fier chez À Double Tour, quel serait-il?
Le décor que j'aime le plus, c'est pas celui dont nécessairement je suis le plus fier, mais je pense que j'aime bien zone morte. C'est le dernier que j'ai complété là-bas sur le site, pour la simple et unique raison que contrairement à d'habitude, je l'ai comme fait en 2 étapes. Donc, on a fait Fébrise dans un premier temps, qui était le laboratoire qui était relativement propre, qui n'avait pas encore été abandonné. Puis là, il m'a recommuniqué plusieurs mois plus tard. Il disait, j'aimerais ça qu'on la rende un peu plus gore, là, qu'on fasse un peu un cauchemar pour adultes. Je dis, ah oui, d'accord.
Intriguant.
Puis là, donc, j'ai travaillé à partir du premier décor propre que j'avais. Et là, j'ai pu passer du temps et l'amener beaucoup plus loin. Chose que jamais on aurait le temps et les budgets de faire avec une équipe traditionnelle pour un projet. Là. Ça aurait demandé beaucoup trop de temps de faire ça pour un simple projet. En 2 étapes comme ça, on a pu aller un peu plus loin. Là.
Si vous aimez le monde apocalyptique ou l'univers des jeux vidéo où il faut tuer bon nombre de zombies, par exemple, vous allez aimer Zone Morte sans aucun doute. Je me souviens que ça avait été annoncé comme éphémère. Moi, j'ai eu peur quand j'ai vu l'état de la salle. Je me suis dit, ils pourront jamais rendre ça blanc comme c'était avant. On comprend mieux pourquoi. Jeff Labbé, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Grand plaisir.
Et d'ailleurs, je ne fais pas de décor de cinéma.
Ah bon? T'avais parlé de tournage? Télé?
Non, je fais
d'accord.
Pas de tournage.
Bon, je t'ai inventé une nouvelle fonction.
Ouais.
Merci beaucoup, Jeff Labbé, scénographe qu'on retrouve chez À Double Tour. Si vous aimez les décors, c'est en partie grâce à lui. Dans quelques instants, dans la suite de Cadenas Directionnel et Lampe UV, on continue de parler de ces conceptions de décors qui nous emmènent dans de tout autre monde à CKRL
89.1. CKRL.QC.ca. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Puis je vous dis que c'est aussi à ce moment précis qu'on comprend pourquoi on appelle ça des gourmandises artisanales. Plus de 40 variétés de pain, sandwich, pizza au four à bois et pâtisserie. Boulangerie La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou.
La terrasse de la Corrigane a fait peau neuve. Venez découvrir la version améliorée de cet îlot de fraîcheur en plein cœur du quartier Saint-Roch. En journée, pour le 5 à 7 ou pour profiter des longues soirées estivales, la terrasse de la Corrigane est un incontournable. En famille ou entre amis, venez déguster une bonne bière artisanale et manger un de nos plats concoctés avec des produits frais et locaux, tout ça au soleil et entouré de verdure. La Corrigane, 380 rue Dorchester, accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph.
À découvrir sur La Fabrique culturelle.
Quand tu montes un film, t'as des problèmes de cinéma, tu sais. Puis les problèmes de cinéma m'angoissent et puis je tique sur des détails que personne n'aperçoit.
André Forcier, le cinéma comme source de désir.
J'essaie de laisser un message de liberté de penser. J'aime bien quand mes personnages soient libres de s'exprimer différemment de ce qu'on entend dans la vie tous les jours.
Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv.
Thank you.
retour dans Cadenas Directionnel et Lampe UV, votre émission consacrée aux jeux d'évasion tout l'été. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, mais on espère quand même que vous appréciez ces aventures à travers la radio et que ça vous donnera envie à votre tour d'essayer l'une des 6 entreprises de jeux d'évasion à Québec. On le rappelle, c'est un divertissement hors du commun et pour cause, aujourd'hui, on parle de comment concevoir un décor de jeux d'évasion avec nos 2 entreprises invitées à double tour, représentées par Alexandre Paquette, copropriétaire, et Steven Keller, copropriétaire de Sauf qui peut à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Québec, puisque ça a ouvert ici l'été dernier sur le boulevard Charest. Et je le disais, ils sont voisins avec À Double Tour, puisque À Double Tour est situé sur la rue du Parvis à quoi 2-3 minutes de marche à peine.
Il y a juste une microbrasserie entre les deux.
Oui,
à peine.
C'est ça, ce qui fait un très très bon arrêt, notamment pour parler de nos aventures. Revenons sur la conception de ces décors. Steven, on le disait, tu étais capable de concevoir un jeu d'évasion maintenant en un mois, avec toute l'expertise que tu as. Tu as bâti avec ton équipe 14 salles, ça doit être 15 parce qu'on avait mal compté avec Marc, en 2 ans, avec quand même un décor de qualité et marquant à chaque fois. Quels sont pour toi les plus grands défis, alors, si c'était capable de bâtir les salles aussi vite? Il doit bien avoir des défis quand même.
Pas nécessairement, vu que je fais le conception-construction, le fait que je suis capable de construire aussi rapidement les salles, c'est le nombre d'heures que je mets dedans. C'est que, aussitôt que j'ai une idée, j'aime pas ça penser à la nouvelle salle avant de commencer à le construire, parce que je suis pas capable de dormir, je reste là, je continue à travailler.
Les idées viennent n'importe quand, ouais.
Fait que quand que j'ai l'idée, puis quand que je décide que je commence à construire, je commence, mais c'est un job à 24 heures. Puis je suis ben trop curieux pour voir qu'est-ce que ça va l'air, fait que je le finis pour voir l'effet fini, puis des fois je le défais. Puis des fois, je le refais. Puis je pars toujours avec l'idée décor avant même les énigmes. Fait que des fois, il y a des éléments que je passe beaucoup de temps pour construire, pour justement le défaire, parce que j'ai pas pensé à l'énigme. Puis l'énigme, il arrive après. Puis j'ai fait, ah, c'est vraiment une bonne idée. Fait que je défais les décors, je le refais avec une autre idée en tête.
Les salles de jeux d'évasion, au début, quand elles sont nées au Québec, on rappelle, c'est quelle année? Ça nous ramène à 2014?
Exactement, 2014, Échappe-toi, Montréal.
On l'avait dit déjà dans notre première émission sur les décors, beaucoup de cadenas, il fallait trouver des codes. Si on avait un code à 4 chiffres, on pouvait débarrer le cadenas à 4 chiffres. On n'est plus du tout dans cet univers-là avec vos salles. Vous avez même conçu des salles sans cadenas. Donc, il faut ces effets magiques aussi qui vont impressionner. Alors, il y a la magie de l'électro-aimant, qui est un système qui permet de poser un objet, puis il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir, par exemple. Je sais que vous êtes tous les deux amateurs de ce genre de système dans vos entreprises.
Comment? Très fiable, très ouais. Efficace. Puis tu peux faire pas mal n'importe quoi avec. Ça s'agit juste d'avoir l'idée.
C'est peu coûteux aussi.
Oui.
Mais parlons-en du budget. Oui,
plus
pardon.
RFID aussi.
Exactement. C'est le genre de technologie qui est très utilisée dans le domaine. Puis comme je dis, c'est pas nécessairement de la technologie qui est très coûteuse. Qu'est-ce qui est coûteux, je crois, c'est justement dans l'enrobage de ces technologies-là. Puis aussi, il faut tenir compte des limites de cette technologie-là, comme Steven le mentionne si bien. La limite, c'est quasiment l'imagination, tu sais.
Exactement.
Ouais. Ce qui est plutôt une bonne chose, alors, parce que vous pouvez vous en permettre beaucoup. Mais comment jongler avec ces défis technologiques? Parce que si la technologie ne fonctionne plus, votre salle est hors fonction aussi. Un cadenas qui ne fonctionne plus, bon, bah, vous avez des je ne sais pas combien de copies de ce cadenas, donc c'est facile à changer. Mais la technologie, je pense que vous devez avoir des anecdotes sur des pénalités de salle à cause de la technologie.
Généralement, la façon que je conçoit la salle, j'essaie d'être utiliser le principe KISS, keep it simple, stupid. Ça veut dire comme le plus simple possible, le plus efficace possible. Fait que oui, certaines de nos salles qui demandent des boards électroniques qui sont construits par mettons mon programmeur qui les construit du début jusqu'à la fin. Il prend pas des Arduino à cause que des fois il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec. Mais chaque fois que je suis capable d'éviter d'utiliser un board électronique, si je suis capable de le faire manuellement, pas manuellement, mais que ça se fait par elle-même en utilisant plus d'électroaimants puis plus d'items qui sont plus fiables, je vais le faire.
Plus facile à réparer aussi.
C'est
pour la
beaucoup
maintenance.
Plus facile à réparer.
Surtout que toi, Steven, tu dois déléguer ici des fonctionnalités de la salle à des gens qui ne l'ont pas construit à Québec. C'est ça, on forme des employés qui doivent être capables de réparer ces petits bugs techniques.
C'est quand même des deuxièmes salles. Fait qu'il y a beaucoup de bugs qui ont été éliminés dans la conception puis construction. Puis généralement, quand que je construis une salle, j'essaie que ça soit être que ça soit vraiment le plus solide possible.
Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, les salles que vous retrouvez chez Sauf qui peut Québec sont les mêmes qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean, pour l'instant, est la seule à avoir une salle, deux salles exclusives.
Trois.
Mais c'est ça, mais il y en a une nouvelle qu'on n'a pas suivie, là.
Mais il y a Weekend, il y a Poséidon.
Oui, Poséidon, c'est vrai.
Puis Vortex passé.
Exact. Donc, trois salles exclusives à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais c'est bien normal, c'est la maison mère. Mais qui sait, on aura peut-être une exclusivité à Québec à un moment donné, Steven?
Qu'est-ce que...
Une salle exclusive, une...
Oui,
c'est
prévu. C'est dans mes plans, c'est prévu. J'ai pas commencé à en parler parce que sinon tu vas être pogné avec moi pendant deux mois, jour et nuit.
On s'en reparlera. Alexandre, on a parlé des bugs techniques. Il y a aussi un défi quand vous construisez une salle, c'est la sécurité. Comme on le disait, on parlait de la glissade tantôt que vous vouliez mettre dans votre scénario au Pays des Merveilles. La glissade, techniquement, il faut toujours que le joueur puisse sortir facilement de la salle s'il y a quoi que ce soit.
Ben effectivement, nous, de notre côté, on a quand même fait affaire avec tout ce qui s'est passé en Pologne. On a fait affaire avec des spécialistes au niveau de la sécurité incendie qu'on a invité chez nous à faire la totalité de nos parcours, à vérifier le moindre recoin. C'est très important chez nous, la sécurité. Aussi, on a des spécialistes de la CNSST qui sont venus également visiter nos parcours afin de s'assurer qu'ils sont non seulement pas dangereux pour nos clients, mais aussi pour nos employés, tu sais, au niveau du remontage. Donc, c'est excessivement important, effectivement, ce qui ajoute un élément technique. Puis c'est en même temps, on aimerait tellement ça pouvoir aller plus loin, mais il faut se fier aux normes et à la sécurité, effectivement.
Oui, pour mentionner, préciser ce qui s'est passé en Pologne, il y a un incendie qui est survenu dans un jeu d'évasion en Pologne. C'était l'hiver dernier et les participants sont décédés dans ce jeu parce que la compagnie n'a pas pu venir à la rescousse de ces jeunes filles. C'est un cas qui peut paraître isolé, mais ça a beaucoup remis en question l'industrie du jeu d'évasion au Québec et même partout ailleurs dans le monde. C'est pour ça qu'on parle de sécurité aujourd'hui. Oui, vous êtes a priori enfermé dans une salle, mais vous pouvez toujours en sortir de manière sécuritaire. Et si ça ne fait pas partie des consignes qu'on vous donne avant d'entrer dans la salle, posez la question, demandez à votre maître de jeu comment je peux sortir. On n'y pense pas toujours quand on est dans le jeu, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez poser la question à tout moment aussi pendant que vous êtes en train de jouer si jamais il y avait une inquiétude. Steven, toi, la sécurité, parce qu'on parlait de la limite, oui, l'imagination est une limite, mais je pense que les normes de sécurité peuvent être une limite aussi dans votre conception
oui,
des jeux.
Oui, on se fait visiter souvent par les pompiers. Puis ça, puis justement, on s'en parle aussi entre jeux d'évasion pour s'assurer que l'événement qui était en Pologne, qui était vraiment évitable, c'était ça la tristesse de cet événement-là. Mmh. C'est tout simplement, ils ont laissé du monde dans une salle qui n'était pas capable de retourner sur ses pas. Fait que en tout temps, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux clients d'utiliser un peu de leur imagination, c'est-à-dire si jamais on les enferme dans une pièce, il y a la porte en arrière d'eux, il n'est jamais barré. Puis s'il faut qu'ils progressent à une prochaine pièce, cette porte-là non plus n'est pas barrée. Fait qu'il peut progresser dans le jeu, puis il peut avoir l'issue le plus proche facilement, mais il faut absolument débarrer le cadenas qui est placé sur la porte. Pour faire en sorte qu'on les embarre et on les enferme pas dans une pièce.
Donc, il y a un cadenas sur la porte, mais qui barre rien. Donc, c'est juste symbolique. Dans le jeu, tu débarres le cadenas, donc l'immersion reste là quand même.
Exactement.
Il y a plusieurs techniques, puis en fait, t'sais, la majorité des gros joueurs au Québec, les grosses compagnies, ont des systèmes de caméras, des lumières d'urgence, surveillance en tout temps, puis comme Steven dit, initialement, chez AdBlotour, au début de l'industrie, nous, on fermait la porte initiale, mais dorénavant, nous, chez nous, tous nos parcours sont débarrés et on a un maître de jeu qui est attitré à chaque salle. On a eu une pratique d'incendie récemment et tous nos parcours ont été évacués en 30 secondes. Donc, c'est extrêmement rapide. On s'assure de la sécurité de nos clients.
Ça, on tient à le dire parce que je pense que vous avez la question, ben, ça fait partie de vos facs là, sur le site web, hein, les questions les plus courantes, et puis certainement que certains clients vous la posent aussi avant de s'aventurer dans le jeu d'évasion. Quoi qu'il en soit, le divertissement sera réussi.
Oui, donc toujours dans la sécurité, là, vous savez, vous gardez quand vous concevez votre décor, ben, vous savez que vous gardez les portes ouvertes ou des trucs pas barrés pour vrai. Mais est-ce qu'il y a d'autres contraintes liées à la sécurité, peut-être des choix de matériaux ou
genre tissu inflammable.
Ouais, c'est ça, tu sais, je vais mettre des rideaux partout, puis ah non, ces rideaux-là, ils prennent en feu, je suis peut-être pas. T'sais, est-ce que ça vous apporte d'autres contraintes?
On n'a pas le choix, en fait. C'est comme quand on va faire des expositions, qu'est-ce qui est out aussi, les matériaux doivent être immu-figés contre le feu. Il y a des protections aussi, nous autres, au niveau des matériaux qu'on utilise qui ralentissent la propagation des incendies. Donc oui, effectivement, ça vient avec leur lot de contraintes, mais c'était également des beaux défis à relever.
Non, exactement. C'est ça, les matériaux, faut que tu sois au courant d'exactement c'est quoi les normes. Il faut que tu saches qu'il y a certains matériaux que tu peux absolument pas utiliser, comme du polythène ou même du styromousse. Mais si que tu peux prendre ce matériel-là de base, puis utiliser des éléments pour le recouvrir, comme mettons
du ciment,
mettons un crépi ou un mortier ou un ciment qui va le rendre tout dépendant du décor réaliste et sécuritaire.
Surtout, c'est bien important. Mais merci beaucoup pour ces détails sur la sécurité. Alors, ça a beaucoup brassé le Québec. On s'est fait beaucoup poser la question nous-mêmes, Marc et moi, au moment de cet incendie. Donc, on tenait à rétablir les faits en 2 juillet 2019, où en est la sécurité au Québec. Donc, on est rassurés là-dessus. C'est le moment de jouer. C'est le moment, chers auditeurs, si vous, ça y est, vous êtes convaincus qu'il faut aller faire un jeu d'évasion, soit c'est chez Sauve qui peut, à Québec, ou chez AdBlotour, à Québec aussi, toujours dans le quartier Saint-Roch, on vous offre des entrées pour aller tenter votre expérience une de ces deux entreprises de jeux d'évasion. Alors c'est très simple, vous m'appelez, mais vous me dites l'un des noms, un nom d'un des scénarios chez l'une de nos entreprises invitées, puis le nom que vous me dites, c'est là que vous allez aller, pas ce scénario-là, mais en tout cas chez cette entreprise-là. 418-640-1586, 418-640-1586. Pendant ce temps-là, je vous laisse aussi trouver le lien avec cette chanson aujourd'hui.
Join your fellow man in the name.
Et oui, vous pouvez me remercier pour le choix musical. Celle-là, c'est moi qui l'ai choisi. Village People in the Navy. Alors, chers invités, avez-vous trouvé le lien avec l'émission d'aujourd'hui ? Alexandre ou Steven, pourquoi on a diffusé Village People dans cette émission consacrée à la conception des décors des jeux d'évasion ?
Il y a un gars de construction là-dedans.
Bravo.
Deux morceaux de robot pour Steven.
Et si vous nous suivez sur la page Facebook Les Captivés, puisque je rappelle Marc Raymond et moi, Jessica Leb, au départ c'est un blog, Les Captivés aussi, où on vous parle de jeux d'évasion, où on critique les salles de nos invités en bien comme en ce qu'il faut améliorer aussi, ben, c'était notre image du jour. Alors c'était peut-être déjà un indice en soi, le gars de la construction de Village People nous avait largement inspiré. D'ailleurs aussi, lien avec l'actualité, Village People sera en spectacle à Québec le jeudi 11 juillet dans le cadre du Festival d'été de Québec. Ils seront dans les After Fake au manège militaire, je vous le rappelle. Il faut le macaron pour pouvoir y aller. Donc ça, je pense que c'est une très bonne raison d'acheter le macaron du festival. Et on a trouvé des liens cette semaine. Hein. Alexandre et Steven... Steven Keller, copropriétaire de Sauf qui peut, Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, Alexandre Paquette pour à double tour, à Québec aussi. On a envie de vous poser quelques petites questions pour terminer. Mais vous, de votre côté, quel est votre décor préféré dans votre entreprise ? Donnez-nous le goût de jouer chez vous. D'ailleurs, je félicite nos gagnants qui ont été très très rapides pour le concours. Myriam qui a remporté ses entrées chez à double tour et David qui ira jouer chez Sauf qui peut. Bravo et bravo pour votre rapidité surtout. Alors, oui ! Alexandre, décor dont tu es le plus fier ou le plus content, dis-nous, chez à double tour.
Définitivement, pour moi, c'est Alice au Pays des Merveilles ou au Pays des Merveilles. Mm-hmm. Pour ça, on joue avec les perceptions des gens, donc c'est ce qui me fascine le plus dans ce décor-là. On est petit, on est grand, on est perdu. Donc, c'est l'émotion qu'on cherchait à faire vivre aux gens.
Et on croise même un certain lapin.
Exactement.
En tout cas, mais moi, c'est pas dur, je le vois tous les jours, comme je suis souvent en retard. Steven, de ton côté, chez Sauf qui peut.
De mon côté, c'est malheureusement une salle qui se trouve seulement à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça serait Poséidon.
Oui.
Mais où ce qu'on se trouve carrément dans une sous-marine, puis ensuite sous la mer, puis je crois qu'on y croit vraiment. Là.
On confirme.
Je dirais pour Québec, et toutes les salles, ils ont toujours quelque chose de différent, ils ont tout un aspect que j'en suis fier. Je dirais point de vue de décor, je dirais immersion, je me pencherais pour le secret d'Endera.
Qui se passe en Égypte.
Égypte, puis pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est une bonne
Ouais, bonne initiation.
Bonne initiation, mm-hmm. Un bon jeu, une bonne initiation au jeu d'évasion. Fait que mais c'est difficile.
C'est dur, je sais, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Puis comme vous êtes amis, parce que c'est comme ça que vous annoncez la chose d'entrée de jeu dans cette émission, quel décor vous aimez l'un chez l'autre, parce que vous avez chacun joué dans l'entreprise
Alice.
De l'autre. Steven, c'est Alice.
Je suis très
au
d'accord
Pays
avec
Alex.
Alice, tu rentres vraiment dans l'histoire, puis tout ça, puis c'est vraiment, vraiment impressionnant comme mais toutes ces salles sont vraiment impressionnantes, mais Alice, j'ai une petite particularité, un penchant vers ce décor-là.
Moi, comme j'aime beaucoup les zombies comme Marc, j'ai eu quand même un petit coup de cœur pour la succession.
Ouais,
exactement. J'aime le petit côté morbide de cette mission-là. C'est un beau clin d'œil.
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Marc, tiens, tu pourrais nous dire un scénario que tu as particulièrement aimé, le décor, chez Sauf qui peut ou chez à double tour, ou les deux?
Les deux, tiens. Chez Sauf qui peut, Poséidon, c'est juste complètement fou. Quand t'es dans un jeu d'évasion puis que t'arrêtes de jouer pendant 2, 3, 4 minutes juste pour regarder le décor, c'est signe qu'il réussit. Puis chez à double tour, c'est en contredit zone morte, un peu pour les raisons que Jeff a évoquées tout à l'heure, la profondeur du détail. C'était un peu la même chose. Si je m'arrêtais dans le jeu pour regarder, c'était le jeu des 7 différences, trouver « Ah, c'était comme ça avant, maintenant ils ont fait ça. » T'sais, ça l'ajoute vraiment une histoire au décor, puis ça lui donne beaucoup de profondeur. Fait que ça, c'est
il y a des zombies.
Mon... Puis il y a traces de zombies.
Il y a des traces.
Des traces.
C'est drôle
des
comme...
Des traces de sale partout. Oui,
c'est comme des traces d'arachides, sauf que c'est des traces de zombies.
Les passionnés ont parlé.
Faudrait mettre une affiche sur la porte,
peut
d'ailleurs.
Contenir,
peut contenir des traces de zombies. Ouais.
Mais moi, je dois le dire, j'ai beaucoup aimé ce décor-là. Mais moi, j'ai un fait pour Le Secret des Dunes chez À Double Tour, qui se déroule en Égypte. Je m'y ai cru jusqu'à la température. Vraiment, très, vraiment incroyable, ce décor-là. Plein de surprises. Chez Sauf qui peut, bah, la colère de Poséidon, c'est clair, incontournable. Mais si je devais en citer une autre ou un autre, moi j'ai quand même bien aimé l'examen final qui se passe dans une école. Vous avez été mis sur la liste des retenus pour l'été, puis vous, le but c'est d'entrer dans l'école par infraction, bien sûr, et puis de retirer votre nom de la liste pour pas aller en retenue tout l'été. C'est très réussi, je pense que ça plaît à beaucoup de gens aussi, parce que ça nous rappelle des souvenirs d'enfance, ça peut se faire en famille. Bravo, vous êtes assez ingénieux. Ouais. Donc voilà, bravo à tous les deux, c'est pour ça qu'on vous a invité.
Merci beaucoup.
Très rapidement, vos actualités, si on veut jouer chez Sauf qui peut, à Québec, vous êtes évidemment ouvert tout l'été,
oui.
Pas tous les jours?
On est fermé le lundi.
Donc elle est réservée.
Mais
ça.
À moins qu'il y ait une fête.
Un groupe, ouais, ou peu importe.
Ici, un congé le lundi, on est ouvert, mais on est fermé le lundi, on est ouvert tous les jours à partir de 10h le matin. À partir de midi et demi la semaine, puis 10h le matin la fin de semaine. Puis on ferme tard.
Sauf qui peut.ca si vous voulez aller faire l'une des... Alors, je me mêle dans les chiffres. Il y a 8 salles maintenant à Québec. Non, 6. 6 salles. Puis faites la route sinon pour aller à Saint-Jean-sur-les-Joliettes.
La 7e, c'est
quand? La 7e, on verra.
La 7e.
On va dénicher l'info, Marc. À Double Tour, ben, on va en reparler la semaine prochaine parce qu'on allait essayer le jeu à la distillerie Stadaconé qui est juste à côté de CKRL. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut essayer chez vous.
Exactement. On a également un beau projet qui s'en vient qui est la tourmenteuse... avec la commission des champs de bataille. Aussi, ben nous, on est ouvert tous les jours également, sauf le mardi. Donc, on s'échange les journées à partir de 10h30 jusqu'à... Notre dernier est à 10h30, donc on termine à 11h30.
À doubletour.com, si vous voulez réserver votre aventure, quoi qu'il en soit, les deux entreprises sont dans Saint-Roch. Comme on le disait, il y a même une micro-brasserie pour se restaurer entre les jeux, parce que vous pouvez faire des marathons aussi, c'est pour tout le monde.
Oui, tu fais un jeu, tu vas t'asseoir, tu prends une bière, tu jases de ton jeu pendant
plus... Pas trop fort pour les autres.
Pendant... Oui, c'est ça. Discrètement, mais tu peux passer plus de temps à parler de ton jeu que le temps que ça t'a pris pour le faire. Donc, tu fais ça. Quand tu as fini de parler, ben tu y retournes, tu pars soit à gauche, soit à droite, tu trouves un autre jeu d'évasion, puis tu recommences.
Ben exactement, on est dans le quartier des jeux d'évasion. C'est super parce qu'on peut vraiment faire un marathon. Toutes les missions chez AWTO, toutes les missions chez Sauf Pure, avec une bonne bière entre chaque, c'est une journée gagnante, je pense.
Et on salue...
Peut-être que les derniers scénarios vont être un petit peu plus ardus, par exemple.
Tout à fait.
On salue tous les accros qui nous écoutent et qui font beaucoup de route aussi pour venir vous voir. Merci à tous, Marc Raymond, Steven Keller, Alexandre Paquette. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres jeux d'évasion. On parlera justement des salles qui sortent, des entreprises qui sortent de leurs salles pour nous faire découvrir les jeux d'évasion à Québec. Dans quelques instants, la loi du rock animée par Chucky McDonald. Restez avec nous sur les ondes de CKRL. Bye bye!
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca
ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes.
Vous écoutez CKRL 89.1.